auditeurs, auditrices, bienvenue si vous nous rejoignez sur le 99.5 FM. C'est aujourd'hui lundi 24 février, la quatrième d'I Love Mes Cheveux, une nouvelle émission diffusée deux ou trois lundis par mois, de 10h à 11h en direct et évidemment en podcast. I Love Mes Cheveux, comme son nom ne l'indique pas, c'est une émission consacrée à la traduction et au plurilinguisme. Je suis Guillaume Singal, je suis responsable et en l'occurrence coupable de la réalisation, d'où le démarrage tardif de l'émission, parce que je me suis emmêlé les boutons. Et à mes côtés, mon invité aujourd'hui, Eric Rambeau. Eric, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme Eric est un collègue, et dois-je le dire, un ami depuis quelques lustres, on va se tutoyer au cours de cette émission.
Allez, on va se tutoyer,
ouais,
d'accord.
On va pas faire semblant. Je close cette intro en rappelant qu'il y a un compte Instagram dédié ILMC, comme I Love Mes Cheveux, tout attaché en minuscule, ILMC 2025, qu'on peut s'y abonner pour ne rien rater des annonces et des podcasts, et qu'on peut même commenter en direct sous la dernière publication, celle avec le nom de l'invité. Posez vos questions, on essaiera de garder un œil sur l'Insta. Alors, chaque émission commencera par la rubrique Le mot du jour. Comme vous le savez, je devrais dire chaque émission commence par la rubrique Le mot du jour. Alors, pour l'instant, c'est moi qui l'anime, mais s'il y a des volontaires qui veulent rejoindre l'équipe, welcome, welcome. Le mot du jour, c'est quoi? C'est un mot difficile à traduire ou qui n'a pas d'équivalent évident dans la plupart des autres langues. Et histoire de boucler avec l'invité du jour, j'évoquerai un des livres traduits par notre invité, Eric Rambeau, Phoque, paru aux éditions Edimage en 1991. En effet, le titre original était sans doute Seals, S-E-A-L-S.
Il l'était.
Ouais. Soit un mot qu'on a l'habitude de traduire communément par phoque. Sauf que dans un contexte scientifique, on désigne en anglais par ce mot l'intégralité des pinnipèdes, donc les phoques, et les otaries, et peut-être même d'ailleurs aussi les morses, et je ne sais plus. Enfin, en tout cas, il y a les morses dans le bouquin, je ne sais pas si ça...
Dans le livre, il y a des morses, et même des lions de mer, et même voilà. Des éléphants de mer,
je pense. Que les lions de mer et les... J'avoue que je n'ai pas fait totalement bien mes recherches, mais je crois que les lions de mer et les éléphants de mer font partie des pinnipèdes, mais
ah oui.
Les morses, je ne crois pas.
Ce serait plus étonnant.
Bon, bref. Et comme me l'a fait remarquer un de nos auditeurs fidèles en voyant le livre chez moi la semaine dernière, ah, ça tombe mal, c'est une otarie sur la photo de couverture. Et c'est vrai qu'il y a écrit phoque en énorme avec une superbe otarie, je ne sais pas laquelle parce que j'y connais rien. Sur la... Je n'ai pas à chercher avec les crédits photo parce que je fais mal mon travail. Donc c'est assez amusant parce qu'un seul des six chapitres s'intitule d'ailleurs phoque. Donc ça veut dire qu'il y a écrit phoque sur la couverture. Puis ensuite, quand on regarde la table des matières, on se rend compte quand même que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors qu'en anglais, évidemment, quand on dit seals, c'est beaucoup plus englobant. Alors, accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? C'est le cas de le dire, surtout s'il y a les morses. Et la faute de l'éditeur, je suppose. C'est ce qu'il faut dire en général.
Alors, non, c'est pas la faute de l'éditeur. L'éditeur, il achète un livre avec ses droits. Le livre s'appelle Seals. L'éditeur n'est pas forcément ultra anglophone ni zoologue. Bon, donc il me refile un bouquin qui s'appelle Seals, et tout de suite je tilte. Là, effectivement, c'est un des rares souvenirs un peu précis que j'ai de l'époque où je faisais des traductions. C'est que tout de suite, je me dis, ah, ça ne va pas être facile. Parce que phoque et otari, déjà, ça faisait un titre un petit peu à rallonge. Et si je voulais mettre phoque, otari, morse, lion de mer et éléphant de mer, ça allait devenir carrément impossible.
On allait plus voir l'otari en dessous du titre, en fait.
Donc, je me suis dit, on laisse ça comme ça. Mais ça attire l'attention sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, en français, de toute façon, tout le monde va parler de... Alors, peut-être pas pour les lions de mer et les éléphants, parce qu'ils sont quand même un petit peu... Ou les morses, surtout, parce qu'ils sont quand même une morphologie un peu spéciale. Mais je ne crois pas que le commun des mortels, à part ton fidèle auditeur français... fasse en un coup d'œil la différence entre un phoque et une otarie. On dit en général phoque, de même que quand on se promène à la campagne et qu'on voit des grosses bêtes avec des cornes, on va dire vache, sans soucier de savoir s'il n'y aurait pas un taureau qui traînerait dans le lot. Ou l'inverse est vrai aussi pour les choses qui font de la laine. On va dire mouton et pas brebis, même si en l'occurrence, pour les vaches, ça se justifie. Dans les troupeaux, il y a généralement plus de vaches que de taureaux. Par contre, quand on voit un troupeau de...
Entre guillemets moutons.
Voilà, d'ovins. Il y a 900 brebis pour deux... J'ai oublié.
Bélier.
Bélier, merci.
Bélier, voilà. Je suis toujours obligé de réfléchir aussi avec chèvre et bouc.
Voilà, exactement.
Justement,
oui,
parce qu'on n'utilise pas bélier et bouc, justement.
On utilise toujours
mouton de manière générique.
Et c'est autant, je ne sais pas, ce serait amusant, tiens, je n'ai pas pensé à ça. Pour chevaux, bon, effectivement, un cheval, une jument, là, l'hyperonyme cheval, il semble assez. Ça me semble être un terme qui a de la valeur, entre guillemets, qui fonctionne. Vache, c'est pas un terme.
Quand on dit cheval, on englobe les juments.
Voilà, automatiquement.
Quand on dit vache, on n'englobe pas les taureaux et les bœufs.
Absolument. Et pourtant, visuellement, si. Perceptivement, quand on les voit, la grosse bête avec des cornes qui fait meuh, c'est une vache.
Donc, c'était ce choix-là. C'était que finalement, phoque paraissait le plus générique de tous les termes. Alors que quand on dit otari, ça exclut tout ce qui n'est pas stricto sensu otari.
C'est l'impression que j'ai eue aussi.
D'accord, très bien. Donc, c'était une décision conjointe avec l'éditeur ou une décision entièrement la tienne ?
Non. Quand j'en voyais, ça fait maintenant perpète que je n'ai pas fait de traduction.
On y viendra, ouais.
Quand j'envoyais un bouquin à l'éditeur, soit les titres allaient d'eux-mêmes, ce qui n'était pas le cas avec celui-là. Je ne sais pas, j'avais un qui s'appelait Les Rêves. Moi, ça s'appelait Les Rêves. Voilà, c'est simple. Soit je laissais l'éditeur entièrement choisir. Je choisissais d'ailleurs généralement des titres à la con.
Tu vois que tu finis par dire que tout est la faute de l'éditeur.
J'ai dit généralement. J'ai par exemple traduit un truc qui s'appelait Petit meuble sympa.
J'allais t'en parler. Non, très bien, mais vas-y, c'est pas grave.
Et petit meuble sympa, les meubles ne sont pas forcément petits. Sympa, ok, pourquoi pas. Mais c'était surtout un truc extraordinairement vendeur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aucun des projets de bricolage contenus dans le livre en question n'était sympa à fabriquer. Il fallait, pour chacun d'entre eux, il fallait du matériel d'ébéniste professionnel, quasiment.
Ouais. Justement, je voulais te poser, je vais le faire maintenant, on le fait dans le désordre, c'est pas grave.
Désolé.
Mais justement, parce que j'ai vu que le titre anglais, c'était « Simple Handmade Garden Furniture ». Et comme je sais qu'effectivement, tu m'avais fait remarquer que, quand on a parlé un peu de l'émission il y a quelques semaines et que tu m'as prêté, parce qu'il faut que je dise aux auditeurs que je ne possède pas les livres qu'a traduit mon invité, mais qui m'en a prêté un certain nombre, pas tous. Enfin, c'est moi qui n'ai pas tout emporté, je veux dire. Simple Handmade Garden Furniture, tu m'avais effectivement fait remarquer que dans ce bouquin-là, rien n'était facile à faire, même pour un bricoleur amateur d'un niveau correct. Et je m'étais dit que peut-être le fait d'avoir enlevé simple, parce que petit meuble sympa, c'est quand même moins mensonger que simple handmade, quand même garden furniture. Parce que handmade, on n'a pas le sentiment qu'il faut un énorme établi avec tout un attirail d'ébéniste quand même. Donc je pense que finalement, petit meuble sympa, c'est peut-être un peu idiot comme titre. Mais au moins, c'est moins mensonger que simple handmade.
Alors, c'est très marrant parce que moi, je ne me souvenais pas du tout du titre original du livre en question. Et quand tu l'as dit tout à l'heure au micro, je me suis dit un seul coup, non, attends, simple, ils sont tout sauf simples. Et handmade, alors oui, ce n'est pas de la fabrication massive en usine, mais c'est handmade avec beaucoup d'outillage quand même.
C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'il y a une photo d'illustration, je crois que c'est d'une jardinière, je crois, qui effectivement est tout sauf simple à faire. Alors que j'ai tendance à penser que moi qui bricole jamais, je pourrais plus facilement faire des jardinières que de poser des cloisons, on va dire. Et c'est amusant parce qu'après ils disent vous pouvez embellir en posant des petits carreaux de céramique dessus, et c'est super drôle parce que sur la photo les carreaux ils sont super mal posés. En fait, même moi qui suis pas bricoleur, je le vois, ils sont tout de travers, et c'est quand même une illustration du bouquin. Mais bon.
Donc ça c'est pour la touche vrai bricolage fait à la maison, quoi.
Ouais,
voilà.
C'est ça. Ouais. Ah, peut-être que c'est fait exprès en fait pour.
Ouais, je pense.
Ah d'accord.
Ils sont vicieux.
Bon, c'était pas ça. Enfin, ça saute pas aux yeux que c'est de travers, mais c'est un peu de travers quand même. C'est un truc que moi je pourrais faire, quoi. Pour le coup, c'est la seule partie que je pourrais faire, poser les carreaux de
papier. En gros, on te file la jardinière,
voilà.
Et tu mets les carreaux. Quoi.
Moi, je mets mal les carreaux.
D'accord.
Parce que ça, c'est pas dit que j'y arrive quand même, qu'il n'y en ait pas qui tombe quand même, qui soit mal
collé.
Non, c'est pas bon. Bref, donc je reviens, je termine sur notre mot du jour justement avec ces seals. Donc, dont peut-être un certain nombre d'auditeurs, auditrices auront appris que c'est un mot qui n'est pas aussi évident à traduire que phoque, simplement. C'est pas un équivalent strict. Et on va dire que pinnipède, effectivement, fonctionne mieux en tant qu'équivalent scientifique. On comprend bien pourquoi on ne met pas pinnipède sur la photo d'un... on comprend bien pourquoi on ne met pas pinnipède sur la couverture d'un livre un peu grand public de vulgarisation avec, il faut bien le dire, quand même, beaucoup de photos et un texte qui n'était pas ultra spécialisé dans mon souvenir. Voilà, donc...
Alors, ce truc des seals, phoques, otaries, etc., m'a posé beaucoup plus de problèmes pour un livre sur les papillons. Parce que là, c'est en français. Enfin, en français, on a un mot qui couvre tout, papillon. Mm-hmm. Là où en anglais, ils vont avoir butterflies et moths. Ouais. Et où le problème, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, en plus, je ne suis même pas sûr de ne pas dire trop d'âneries. Le problème, c'est que moths, on le traduit généralement par papillon de nuit.
Phalène, papillon de nuit, ouais.
Les phalènes, c'est une variété de papillons de nuit. Mais en fait, il y a des morphs, si je me souviens bien, qui peuvent être des papillons de jour. Et donc, du coup, là, je me retrouvais avec des espèces d'arrachage de cheveux pas possible, parce qu'il fallait absolument que je... Je ne pouvais pas me permettre de...
De faire une grande catégorie qui se pose, en fait.
Et tout en étant évidemment obligé de respecter la structure
maquette,
du livre.
La maquette, ouais, je me doute. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur d'autres des livres que tu as traduits. C'est qu'effectivement, enfin, il y en a un dont tu m'as prêté et la version originale et la version française. C'est celui sur la musique classique.
Ah oui.
Et c'est très, très pratique, ce qui n'est pas très souvent le cas quand on est traductologue. C'est très pratique de retrouver les pages parce que c'est exactement la même maquette. Donc, la page 162, c'est la même en anglais et en français. Quoi.
Ah, c'est le
les
truc...
mêmes photos avec la légende au même endroit.
C'est le truc idéal pour que tes fautes ou tes maladresses de traduction sautent aux yeux de qui veut les trouver. Ça, il n'y a aucun problème.
Ah, on en reparlera. Non, j'en ai pas trouvé. En fait. Mais j'ai pas cherché. Non, mais on reparlera de la question des omissions, en fait, du foisonnement, etc. Parce qu'il y a des choses que tu traduis pas dans certains de ces livres. Et c'est pas des omissions. Je pense que c'est délibéré, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais oui, c'est vrai que les moths, je disais phalène, enfin, j'avais pas pensé à ça. Mais c'est amusant parce que je crois que très souvent, en traduction littéraire, moth est traduit par phalène, parce que souvent, c'est nettement mieux en termes de registre littéraire, et notamment en poésie, que papillon de nuit. Tu vois, t'as à traduire moth, qui fait qu'une syllabe. Déjà, phalène, ça en fait deux. C'est déjà pas forcément très simple en termes de versification. Si tu mets papillon de nuit, c'est terminé. Quoi.
Donc, en plus, les consonnes PH, ça fait toujours super chic.
Oui, c'est ça, voilà. On est dans un niveau de langue nettement plus soutenu ou dans un registre littéraire. Mmh. Ça fonctionne nettement mieux. Ouais. Et je terminerai cette rubrique du mot du jour en disant aussi, en signalant pour les personnes qui auraient à cœur d'enrichir leur vocabulaire anglais, après tout, ça peut servir aussi à ça, que, évidemment, il y a le problème de seal, phoque, mais plus que phoque. Mais il y a aussi, évidemment, l'homonymie, les jeux de mots par centaines qui jouent sur l'homonymie entre seal, le sceau, S-C-E-A-U en anglais, et seal, le pinnipède. C'est-à-dire, ça s'écrit et ça se prononce exactement pareil. Carte d'anniversaire représentant un phoque ou une otarie, je ne sais pas, hilar, avec une légende du type, ça je cite des cartes par centaines, « You've done an excellent job, you get the seal of approval », évidemment, parce que littéralement, là, ouais, mon invité rit nerveusement, je crois, après avoir levé les yeux au ciel.
Pas nerveusement du tout, non, c'est non. Très, très drôle.
C'est drôle, c'est
absolument consterné.
Tu l'avais jamais vu, ouais,
jamais.
C'est drôle et consternant. Bon, c'est le propre des jeux de mots de cartes humoristiques.
Je connaissais pas celle-là.
Et seal of approval, donc en anglais, c'est vrai, phoque d'approbation et sceau d'approbation, finalement. Donc, ou otarie d'approbation, ça ne marche pas. Bon. Seal of approval, on ne peut même pas le traduire comme ça par sceau d'approbation. C'est validé, en fait.
L'imprimature.
L'imprimature, ouais, c'est l'imprimature, bravo. Bien, cela ne nous rappelle donc que ce n'est pas parce qu'un jeu de mots est répandu ou médiocre qu'il en devient aussitôt plus facile à traduire, ni même d'ailleurs traduisible. On termine sur ce mot du jour et donc on passe à l'entretien avec l'invité du jour. Mais comme on a un petit peu déjà parlé, on va peut-être faire une première pause musicale. Playlist, programme choisi par notre invité. Et on va commencer par écouter Sina Kabar de Lojo. Et peut-être que tu vas nous dire deux, trois mots de ce... Si tu veux présenter juste vite fait le...
Alors, je ne sais pas si les Tourangeaux ont besoin qu'on leur présente Lojo. Lojo, c'est un groupe d'Angers, donc des quasi-voisins, qui est en existence depuis, je ne sais plus, plus de 30 ans, dont une des particularités est de travailler de manière vraiment collective, à savoir qu'il y a un auteur des textes, mais les musiques sont généralement élaborées plus ou moins ensemble, par des gens qui ne sont pas forcément... Il y a deux musiciens professionnels dans le lot, mais les autres sont des musiciens, enfin des musiciennes, en particulier pour les deux chanteuses, souvent autodidactes. Et ils ont eu également une vie en semi-collectivité ou communauté à une époque. Et leurs textes superposent ou mélangent ou alternent des langues assez différentes. On va y trouver évidemment du français, de l'anglais, ça c'est classique, mais on peut aussi tomber sur du russe, de l'arabe, de l'espagnol, comme on va l'entendre dans la chanson qui vient, etc. Voilà.
Ok, très bien. Donc on écoute Sina Kabar de Lojo.
Albano samedi, China Gavar Domingero. Soy un brillant pépé, un guetteur à coupeur de palabres. Nous sommes les mèches des danseuses de bon, les flèches de leur peine, le sang de leur vertige. Soy un affranchi pépé, soy un soleil.
Le temps d'une petite manip parce que je n'arrive pas à faire trois choses à la fois. Nous revenons à notre invité, bien sûr, Eric Rambeau. Eric, on a commencé à parler évidemment de ton activité de traducteur, mais avant de revenir à ça, combien de langues parles-tu? Au moins un peu.
Tu as le droit de dire le français. Tout dépend où tu mets le curseur du un peu.
Tout le monde me fait cette réponse-là, ce qui est normal d'ailleurs.
Je parle pas trop mal le français, correctement l'anglais. Après, j'ai mis mes doigts dans plein de langues différentes, si j'ose m'exprimer ainsi, mais sans beaucoup de succès. J'ai fait des tentatives d'allemand obligé au lycée, d'espagnol, de néerlandais, d'italien et de grec, en gros.
Voilà. Grec moderne ?
Ah oui, moderne.
Mais tu aurais pu avoir pareil une espèce d'expérience du grec ancien.
J'aurais pu citer le latin aussi à ce moment-là, ouais. Mais non, j'oserais pas.
Mais au point où, je sais pas, enfin actuellement, si tu disais, je prends néerlandais, grec moderne, tu lis.
Non, absolument pas. Non, d'abord, c'est très très vieux pour la plupart, à part le grec moderne. Et puis en plus, je suis très mauvais. J'ai un souvenir comme ça d'être avec des amis à Berlin. Et j'avais des souvenirs d'allemand. Et j'arrivais à poser des questions aux gens dans la rue. Ce qui étonnait beaucoup mes amis les 30 premières secondes. Par contre, ils se sont rendus compte tout de suite après que je ne comprenais absolument pas les réponses qui m'étaient faites. Et du coup, ça les faisait encore plus rire. Voilà. Donc non, j'en suis à ce stade-là. J'arrive à comprendre un peu un certain nombre de choses en italien, en espagnol surtout, plus qu'en italien quand même. Mais pas du tout, à m'exprimer.
D'accord.
Enfin, okay. C'est le contraire. Voilà, c'est
d'accord. Enfin, en tout cas, il y a eu des tentatives. Enfin, il y a du plurilinguisme.
Oui,
voilà.
Oui.
Ok. Et une autre question que je pose à tous et toutes mes invités, c'est est-ce que tu as, je sais que tu en as une, donc la question va être rhétorique, mais as-tu une anecdote amusante ou significative sur les situations de plurilinguisme, les différences culturelles, la conscience que les langues correspondent à des mondes différents, à des univers différents
Ouais, alors l'anecdote en question, elle est beaucoup plus que significative, elle est quasiment fondatrice chez moi, je pense. J'ai 17 ans, je suis aux États-Unis, je vis dans une famille américaine de gens qui sont des Américains très 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 moyens, même pas terminé le lycée, je pense, pour les deux d'entre eux. Et puis, on est dans le nord de la Californie, on discute de voyages et autres. Et je leur demande, donc là, je vais être obligé de passer en anglais, je suis désolé, bon, ça va être comme ça. Et je leur demande, have you ever been to Canada? Sachant que la Californie, c'est pas très loin du Canada, je me demandais s'ils avaient voyagé jusque là-bas, etc., etc. Là, ils me regardent avec un air d'incompréhension intégrale, alors que jusque-là, je me faisais quand même bien comprendre dans toute situation avec eux. Et je reprends, et je leur demande, mais bon, bah, le Canada, un machin au nord des États-Unis, là, vraiment, ils le comprennent. Comprennent de moins en moins. Donc, on va chercher un atlas. Je pointe mon doigt sur le pays en question. Et là, en chœur, ils me disent « Ah, you mean Canada ?» Et je n'entends pas la différence. Je reste là et je dis « Bah oui, mais c'est ce que je vous ai dit. » Et il me dit « Non, non, you said Canada when it's Canada. » Et là, je réalise que j'ai déplacé l'accent pour vraisemblablement une raison très simple, qui est que quand on est en Californie, il y a plein de noms de villes espagnoles et où donc la prononciation, l'accent se place sur l'avant-dernière syllabe quand ça se termine par une voyelle en général. Et eux, donc, en entendant ça, Canada pensait que je parlais d'un patelin paumé quelque part à la frontière du Mexique, je ne sais pas, ou dans la cambrousse californienne. Et donc, j'ai réalisé à ce moment-là que probablement, ce n'était pas formalisé à ce point-là, mais plus encore que la prononciation
des sons individuelle ouais.
Des sons.
On a tous eu un moment comme ça.
Voilà. Le décalage de la syllabe sur laquelle on place l'accent peut simplement absolument tout bloquer et tout foutre en l'air dans ce qu'on est en train de dire. Et amener, comme ça a été le cas là, vraiment à 2 minutes d'incompréhension intégrale.
Alors c'est vrai que je ne t'ai pas présenté parce que j'ai zappé une partie de mon conducteur, mais moi je te connais, donc j'ai oublié de dire que tu es actuellement retraité, mais que tu as exercé ton activité comme professeur d'anglais, comme professeur des écoles, professeur d'anglais dans le secondaire et pour la plus large partie de ta carrière à l'Université de Tours, notamment en langue orale et grammaire, ce qui donne aussi un relief autre évidemment à l'anecdote, puisque c'est peut-être le moment peut-être aussi pivot dans l'apprentissage des langues et de ce qu'est une langue et de ce qu'est la compréhension de l'anglais ou l'incompréhension de l'anglais par un allophone. Et c'est vrai que l'accentuation, l'accent tonique, c'est évidemment un pan absolument capital, fondamental de la prononciation d'un très grand nombre de langues, bien entendu. Je pense que si on ne place pas l'accent au bon endroit en espagnol, en portugais, enfin dans un certain nombre d'autres langues, on n'est pas forcément bien compris. Le français a un accent tonique très nettement plus affaibli, fantôme, on va dire, très souvent. Donc, c'est probablement moins gênant. Mais enfin, ça peut aussi poser des difficultés. Et alors, c'est intéressant ce que tu disais par rapport à l'explication californienne, hispanique, on va dire, en quelque sorte. Tu disais, alors, personnellement, moi, je sais que j'ai pas été original du tout parce que j'ai dû batailler dans ma formation d'angliciste pour... éliminer les déplacements d'accent tonique, notamment sur les mots de 3 syllabes comme Canada, que peut-être je prononçais aussi Canada, certainement. Je sais des mots comme narrative, que je prononçais narrative. Bon, je pense que c'est aussi lié au français, c'est-à-dire qu'on a tendance à accentuer plus vers la fin du mot quand même. Et donc c'est vrai que ça, c'est pas du tout intuitif pour quelqu'un qui est surtout francophone d'aller placer principalement, pour l'immense majorité des mots, l'accent tonique sur la première. Alors c'est pas... non mais je rentre pas dans les débats didactiques et phonologiques sur la question, mais en tout cas voilà, c'est... Mais effectivement, on a tous eu des moments où on se disait, mais en fait, je prononce tout très bien, j'ai bien revérifié la phonétique, même dans le dictionnaire. Et en fait, les gens ne vous comprennent pas parce que l'accent tonique n'est pas au bon endroit. Quoi.
Mais il faudrait vraiment, ça serait amusant en fait, de vérifier ça, l'hypothèse du bain linguistique hispanophone ou à consonance hispanophone comme filtre des mots que l'on entend, de tester ça en essayant la mauvaise accentuation, l'accentuation Canada, auprès d'anglophones qui seraient, je ne sais pas moi, australiens, écossais, anglais, mais qui donc ne seraient pas infusés en permanence dans un univers où tous les noms de lieux sont des noms de lieux espagnols.
Oui, mais c'est une anecdote qui est plus qu'amusante, qui est même pivotale, non, on dit pas ça en français, on est pivotal, transitionnel, je sais pas comment dire. Alors la question suivante, un peu classique aussi, que je pose à tous et toutes mes invités, c'est: quel est ton rapport à la traduction, et en l'occurrence, comment en es-tu venu à traduire, je vais dire, une palanquée d'ouvrages de vulgarisation dans les années 90 principalement? Tu en as traduit, tu vas répondre de toute façon. Combien en as-tu traduit? Pourquoi t'es-tu retrouvé à les traduire?
Alors, je ne sais pas combien j'en ai traduit. Au moins une quarantaine, probablement plutôt une cinquantaine, j'imagine. En sachant que ça allait de trucs qui allaient faire, je ne sais pas moi, l'équivalent. Le plus court, c'était un conte de fées. Ah oui, celui-là aussi, il était horrible.
Ça vient de te revenir, oui, oui. T'as eu un flash. Comme
un conte de fées dessiné pour enfants qui s'appelait The Tooth Fairy, la fée des dents. C'est la petite souris. Sauf que quand le truc est dessiné, il n'y a pas moyen de tordre le texte et d'en faire une petite souris. Quoi. Là, c'était une fée qui était dessinée et ce n'était pas une petite souris. Voilà. Et ça faisait, je ne sais pas, ça devait représenter peut-être 4 ou 5 feuillets de texte jusqu'à l'encyclopédie de la musique dite classique occidentale dont tu parlais tout à l'heure. Là, c'était du très, très gros boulot. Beaucoup de choses animalières, des livres de voyage vaguement, pas mal de livres de bricolage. La caractéristique première de tous ces bouquins était que je n'y connaissais rien avant d'ouvrir le livre. Voilà, à peu près rien du tout. Ce qui est un peu normal, c'est quand on est prof, en fait, en dehors de son domaine d'exercice, il n'y a pas grand-chose dont on puisse se prétendre spécialiste le plus souvent. Et donc, j'ai fait ça parce qu'un jour, un ami qui faisait de la traduction pour arrondir ses fins de mois, comme moi j'allais le faire, m'a dit « Oh, le copain qui m'envoie des trades à faire, il en a une en trop en ce moment. Tu fais ce que tu veux, je lui donne ton nom. » Je dis « Oui, vas-y, donne mon nom. » Et une semaine ou 10 jours plus tard, je recevais dans ma boîte à lettres un gros bouquin sur les dinosaures. Et j'ouvrais l'ordinateur et j'attaquais les dinosaures. Voilà. Donc, je tiens à dire que c'était vraiment du boulot strictement alimentaire, même si, et c'est là que ça devient intéressant peut-être, même si en fait, au fur et à mesure que je le disais, je prenais du plaisir à assouvir une forme de curiosité. Tiens, les dinosaures, ah bon, je ne connais rien aux dinosaures, allons-y. Et j'apprenais des choses sur les dinosaures, les différentes techniques de fouilles, enfin bref. Au fur et à mesure que je disais, et ça, je peux dire que, honnêtement, ça m'amusait. J'étais moins amusé quand j'ai traduit des trucs sur les Harley Davidson ou sur les voitures de collection, ça je dois bien dire. Mais pareil.
Il fallait que ça rencontre un petit peu tes intérêts quand même.
Non, même pas.
Non, mais genre tes intérêts. Enfin, fallait pas que ça rencontre tes absences d'intérêts. Je sais pas comment le dire. Enfin,
non, j'étais prêt à te faire tout et n'importe quoi. Donc, enfin.
Alors je vais poser la question différemment. Je veux dire, même traduire un livre sur les Harley Davidson ne t'a pas rendu, n'a pas rendu les Harley Davidson intéressantes pour toi.
Non.
Voilà.
Non, absolument. Si ce n'est que j'ai appris à reconnaître leur son dans la rue. Ils ont un bruit de moteur très caractéristique.
Okay.
Et pourtant, ce n'était pas dans le livre, mais à force de regarder des motos. Parce que quand vous vous mettez dans un truc comme ça, sauf, bon, pas pour les dinosaures, mais pour les Harley Davidson, par exemple, vous commencez à regarder les motos dans la rue. Mmh. Vous n'avez jamais jeté un œil à une moto parce que ça vous inintéresse avec une force incroyable. Et puis, à un moment donné, vous voyez passer un truc, ça a la forme de ce que vous avez vu dans le livre, et ça a un bruit de moteur extrêmement caractéristique. Et donc là, vous associez la Harley et le bruit de la Harley, voilà.
Je crois que les Harley, enfin, c'est peut-être la seule moto que je suis capable vaguement de distinguer des autres, personnellement. Oui. Ça, c'est quand même relativement... Mais je n'ai pas traduit le livre sur les Harley Davidson. J'avais une question sur l'ouvrage que tu as traduit sur les jukebox.
Ouais.
Parce que tu as traduit un ouvrage sur les jukebox de collection que mm-hmm. J'admettrais ne pas avoir lu, mais avoir feuilleté. Et justement, ma question par rapport à ça, c'était puisque tu as traduit une quarantaine d'ouvrages qui sont principalement des ouvrages monothématiques sur des sujets extrêmement spécialisés, même si c'est des ouvrages de vulgarisation pour la plupart. Et encore, peut-être que tu ne seras pas d'accord ou que tu pourras dire en quoi il a fallu quand même utiliser beaucoup de vocabulaire quand même spécialisé ou technique pour les traduire. Puisque tu disais qu'en fait, tu as traduit ces ouvrages qui sont des ouvrages monothématiques sur des sujets très pointus. Est-ce que tu disais que tu apprenais des choses et tu trouvais ça finalement assez excitant intellectuellement, intéressant, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu as appris quelque chose de durable, tu as retenu quelque chose sur les jukebox, ou est-ce que 30 ans plus tard, tu en sais à peu près autant qu'avant d'avoir commencé à traduire ce livre ? Alors, sachant qu'aussi les années ont passé, ça joue aussi certainement. Mais...
Alors, deux phénomènes au minimum. D'abord, j'ai une mémoire totalement pourrie, donc les choses s'effacent très très facilement. Même si j'ai... Peu importe. J'ai une mémoire qui s'efface encore plus pour les choses très récentes. C'est-à-dire que les jukebox, j'avais quelque chose comme 4 à 5 semaines, 6 parfois, pour traduire un bouquin. Donc pendant 5, 6 semaines, je suis le nez là-dedans, je pense qu'à ça, je fais que ça dès que je ne suis pas au boulot.
Mais c'est très court.
Mais surtout, une fois que les problèmes sont résolus, les problèmes sont résolus. Et donc, on les oublie. Et ce qu'on veut, c'est passer à la page suivante, au feuillet suivant, au problème suivant. Et de fait, il n'en reste pas grand-chose. Voilà. Alors, les jukebox, il m'en reste à peu près rien. Là, il faut être clair. Sur les ouvrages animaliers, un petit peu plus, peut-être. Mais franchement, non, il ne m'est pas resté vraiment grand-chose.
C'est ce que les traducteurs, enfin professionnels, au sens où les gens qui n'ont que ça comme métier, on va dire, hein, c'est pour distinguer, parce qu'en l'occurrence, quand on peut dire comme toi, j'ai traduit 40 livres, ça fait de toi un traducteur professionnel. Tu as signé un certain nombre de contrats professionnels de traduction. C'est ce que les traducteurs professionnels appellent un peu la traduction au kilomètre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui compte plus que tout, c'est le deadline, c'est le délai de remise du manuscrit, et on fait de son mieux, le mieux possible, en rentrant le plus dans les détails, mais ce qui compte, c'est, comme tu le dis, le feuillet suivant.
Oui, oui, ça effectivement, la traduction au kilomètre, c'était une forme d'obsession, parce qu'effectivement, là, dans ce genre d'édition, on ne rigole pas avec la date butoir. Si on ne respecte pas la deadline, c'est vous qui êtes mort. Pour une raison, je ne sais pas, on peut rentrer dans ce genre de questions techniques sur l'impression.
Ah oui, tout à fait. Oui,
les ouvrages.
C'est intéressant. La plupart de nos auditeurs auditrices n'ont pas signé des contrats de traduction professionnelle, donc c'est en soi intéressant.
La plupart des ouvrages que j'ai traduits étaient évidemment écrits en anglais à la base, et ensuite allaient être traduit et donc imprimé dans deux ou trois langues différentes, français, allemand, français, espagnol et parfois français, allemand, espagnol, si je me souviens bien. Cela impliquait, pour des raisons d'économie, que tout est déjà sur des films offset. Toutes les illustrations sont à leur place, la mise en page est la même pour toutes les éditions, et par conséquent, le calibrage du texte que l'on va mettre dedans doit tomber au bon endroit, pile. Ça ne doit pas dépasser. Si ça dépasse, ça n'est plus possible. Ça ne pourra pas être imprimé. Et ça, c'est parce qu'ensuite, quand les livres sont imprimés, alors à l'époque, ils étaient imprimés soit en Italie, soit à Hong Kong. Je ne sais pas où ça serait imprimé aujourd'hui. Quand les fichiers partent en Italie ou à Hong Kong, les fichiers des 2, 3 ou 4 langues vont arriver en même temps à l'imprimerie. Donc, il est absolument crucial que les différents éditeurs français, allemands et autres coordonnent leur date pour que l'imprimeur qui a autre chose à faire que d'imprimer, parce que c'était des petits tirages, hein, c'était des 5000, 6000 exemplaires, l'imprimeur a autre chose à faire que de faire des tirages de 5000, un jour bloque ses machines pour faire la série des 5000 Français, la série des 5000 Allemands, etc. Donc la date butoir était vraiment une obligation. Et même, après, simplement d'un point de vue moral ou éthique, moi, si on me dit le machin, tu le rends le 15 janvier, le 15 janvier, il faut pour moi qu'il soit rendu. Voilà.
Mmh. Alors c'est intéressant ce que tu dis aussi par rapport. Alors je veux aussi signaler, puisque c'est la quatrième émission aujourd'hui, je veux signaler qu'apparemment, on n'entend pas toujours très bien quand je parle ou je suis trop loin du micro. Alors, pourtant, depuis le début, j'ai au moins un témoin, je suis super près du micro, je ne sais pas. Bon, bref. C'est un problème qui s'est déjà produit lors d'une émission, donc peut-être que la technique me dépasse. Non, je voulais, plus sérieusement, je voulais dire que c'est la quatrième émission et c'est la première fois qu'en fait, j'ai comme invité quelqu'un qui a vraiment traduit des livres, et beaucoup, publiés, je veux dire. Donc, c'est assez amusant quand je t'entends dire c'est des petits tirages, 5 ou 6 000 exemplaires, parce que je pense que j'aurai dans un futur lointain et même proche des traducteurs, traductrices qui traduisent des romans étrangers, traduits pas forcément de l'anglais, pas forcément pour des gros éditeurs, qui vont traduire de la poésie et pour qui parfois 1200 exemplaires c'est un gros tirage. Donc c'est comme quoi tout est relatif. Non mais ça c'était juste aussi pour donner, pour contextualiser ce que tu disais. Sur la question des lieux d'impression, je réagissais un peu à ce que tu as dit sur l'Italie et et Hong Kong, c'est ça, je crois. Je vois beaucoup de maisons d'édition qui, quand elles ne font pas imprimer pour des raisons éthiques en France, souvent c'est en Slovénie, je crois. J'ai vu beaucoup de choses imprimées en Slovénie, en fait.
La Slovénie n'existait pas quand j'ai commencé.
Oui, oui. Voilà. Donc, alors, effectivement, je crois que j'avais donné un titre à un moment donné à cette émission quand je l'ai annoncé sur les réseaux. C'était comment traduire des ouvrages de vulgarisation avant Internet. Je crois que j'avais dit. Ce qui est aussi une question que je vais te poser avant. Mais c'était avant Internet, mais c'était aussi en partie avant la chute du. Enfin, c'était pas avant la chute du mur de Berlin, mais c'était avant la constitution, notamment de l'ex-Yougoslavie sous sa forme moderne. Mais on ne va pas faire un cours de géopolitique maintenant. J'aurais une petite question à te poser, mais on va se faire une deuxième pause musicale avant. Je sens qu'on va encore déborder. Une petite pause musicale, c'est la Marelle, chanson de Nazaré Pereira, si mes souvenirs sont bons.
Chanson popularisée par Nazaré Pereira. Ah, j'ai jamais réussi à savoir quelle était la version originale exactement.
D'accord. Et là, c'est une version que tu nous proposes par le duo Birds on a Wire. Et donc, je ne sais pas si tu veux en dire deux, trois mots ou pas.
Birds on a Wire, c'est un duo de femmes. La chanteuse principale, c'est Rosemary Stanley, qu'on a connue à une époque. Dans un groupe de musique country française.
Moi, je connais personne de tous les gens qui t'as programmé aujourd'hui.
Et elle joue avec une violoncelliste brésilienne, dont j'ai oublié le nom.
Dom La Nena, je l'ai sous les yeux.
La Nena étant un pseudo, c'est Dom La Petite, parce qu'elle elle a commencé petite. Voilà. Et elles font un travail, pour le coup, qui balaye beaucoup de langues, un travail musical que je trouve vraiment remarquable.
On écoute ça.
Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Quer durar, tem diamante do ambíguo, cuida do pai. oggi chi avrà? Minini e picchinini a tonta gi tonto sciorà. Te scioro ma la goa e alla che vomi baia. Le jeu de la marée le va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Tonta di tonto sciorà, te sciorà ma la goa e alla che vomi baia. Le jeu de la marée, le va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le pluie, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la.
Birds on the Wire, donc avec du français, du portugais, brésilien, si mes oreilles sont bonnes. Toujours programmation proposée par notre invité Eric Rambeau, anciennement professeur d'anglais, notamment à l'université de Tours, et qui est mon invité aujourd'hui, car il a traduit, moi je pensais une trentaine, mais apparemment plutôt une quarantaine, de livres de vulgarisation au cours d'une quinzaine d'années à peu près, entre les années 90 et début des années 2000. Et donc, en grande partie avant Internet, et c'était une autre question que je voulais te poser, parce que moi qui ai surtout traduit des ouvrages, enfin, qui ai surtout eu des contrats depuis Internet, c'est vrai que pour tout ce qui est vocabulaire technique, le web, c'est quand même super précieux. Donc, tu vas nous dire à quel point c'est super précieux du point de vue de quelqu'un qui a dû faire 100.
Alors, ça dépend évidemment du type de livre qu'on traduit. Mais pour des livres qui vont être quasiment des catalogues de références animales. Je pense en particulier à un bouquin sur les papillons. On en parlait tout à l'heure un petit peu.
T'es un peu traumatisé celui-là. Hein.
Carrément traumatisé. C'est simple, on fait une première lecture, on va dire, de l'index. Parce que il y a ça de bien avec les anglophones, c'est que pratiquement dans tous leurs livres, il y a des index. Ce qui se fait peu en français. On fait une lecture de l'index, on relève ce qui semble poser problème, c'est-à-dire à peu près 95% de ce qui est dedans. On va dans une bibliothèque et puis on cherche. On cherche parfois, le plus souvent, il n'y a pas de nom latin parce que les Anglais n'aiment pas les noms latins. On passe du temps à éplucher des articles. Alors, les papillons de nuit, moths, les papillons de jour, butterflies. On relève tout ce qu'on peut. Donc, on n'a toujours pas ouvert son ordinateur quasiment à ce moment-là. On rentre chez soi, on fait de la traduction au kilomètre en surlignant tous les machins qui restent
en suspens.
En suspens, voilà, c'est ça. Et puis, deux jours avant la date butoir, on retourne en bibliothèque et on affine. Et pour les papillons en particulier, il s'est passé un truc absolument terrible, c'est qu'il me restait deux pleines pages de noms de papillons absolument inconnus de moi que je n'avais pas réussi à retrouver. J'ai eu un coup de bol énorme. J'ai réussi à trouver les coordonnées téléphoniques de l'auteur du livre, qui a d'ailleurs, ça aussi c'est intéressant, découvert à cette occasion que son livre était en cours de traduction, puisqu'en fait, en Grande-Bretagne, très souvent, les gens font du forfait. Ils publient un livre. Est-ce que le livre devient derrière? Ils ne vont pas toucher un droit d'auteur dessus.
Ça arrive assez souvent en France aussi, je crois.
Je n'étais pas au courant.
Je crois que ça arrive, parce que souvent, quand on cède ses droits d'auteur, on cède à l'éditeur les droits de traduction aussi. Okay.
Et là, le type me dit, écoutez, c'est très simple. Envoyez-moi un fax et je vous envoie un fax en retour avec tous les noms latins. Et là, à partir des noms latins, j'ai réussi à retrouver pas mal de noms français. Et puis, au pire, je mettais un nom latin, ce qui, dans un texte en français, est franchement pas une honte.
Bah, d'autant qu'en plus, moi, alors les papillons, pas trop, mais je me rappelle avoir utilisé moi, des guides des champignons ou des ouvrages sur les champignons dans lesquels, en fait, la moitié des noms étaient des noms directement en latin, sans équivalent français. Là où les anglophones ont tendance à ne pas aimer du tout les noms latins et à avoir souvent, d'ailleurs, des noms très... parce que même les noms familiers ou courants en français, ils sont souvent de formation grecque en fait ou latine, donc ils sont assez peu visuels et alors ils font pas image, on va dire, ou ils sont pas imagés. Alors qu'en anglais, très souvent pour tout ce qui est oiseaux, champignons, etc., il y a souvent des noms très qui sont des vrais noms populaires,
oui.
Sortis de l'imagination populaire. Jusque dans butterflies d'ailleurs, enfin, papillon qui est pas du tout un mot transparent, butterflies. Bon, il y a butter et il y a fly. Non, mais alors ensuite, est-ce que les papillons sont des mouches à beurre? C'est très peu probable. Mais au moins, un enfant de 5 ans qui entend ça, ça s'inscrit dans quelque chose, quoi.
Et ce qui est marrant, c'est que on retrouve des noms courants, y compris pour des espèces extrêmement exotiques, des papillons de, je sais pas moi, de Bornéo, d'Inde, des insectes, plein d'animaux vont avoir des noms courants, vernaculaires, en anglais. Ce qui n'est pas tout le cas en français.
Eh bien, je signale aussi, puisqu'on est à l'ère d'Internet, que je n'expliquerai pas ce qu'est un fax aux personnes qui ne savent pas ce que c'est, sans doute parce qu'elles sont un peu trop jeunes, plus jeunes que toi et moi. Mais justement, Google est ton ami et tu iras chercher toi-même ce qu'est un fax. Donc, à l'époque, effectivement, on communiquait avec l'auteur dont on traduisait le livre par fax, ce qui certainement n'était pas pratique du tout, puisque, bah, entre autres, le mail permet de faire des copier-coller, le fax ne le permet pas. Entre autres immenses avantages de la communication à l'ère 2.0 ou à l'ère du web. On va passer au dernier point dont je voulais parler avec toi, enfin à ta sollicitation, parce que je n'ai pas trouvé ça tout seul. Tu voulais parler en fait d'un texte de Raymond Queneau que nous lirons après la prochaine pause musicale, dont nous lirons un extrait au moins après la prochaine pause musicale. Et ce texte de Raymond Queneau, c'est un texte de 1965 qui a eu une sorte aussi de fonction de déclic pour toi par rapport aux langues, un petit peu comme l'expérience de ne pas se faire comprendre en prononçant mal Canada en anglais à 17 ans en Californie. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots de Finnegan's Wake de Joyce? Alors, deux, trois mots de Finnegan's Wake, je ne sais pas si c'est faisable, mais en tout cas, expliquer de quoi, ce qu'on va entendre, c'est-à-dire un extrait de Anna Olivia Plurabel d'André Auder, et ce qu'on va lire, ce que tu vas lire après.
Alors, pour Finnegan's Wake, en fait, c'est assez auto-explicatif, c'est-à-dire que Queneau écrit un texte en français-français, compréhensible par à peu près tout le monde, et ensuite le traduit en joycien. Donc moi, à l'époque, j'étais en première, hein, c'était mon prof de français qui m'avait filé ce livre. Je n'avais jamais entendu parler ni de Joyce ni de Finnegan's Wake. En revanche, quand je vais lire les deux extraits tout à l'heure, je pense que tout le monde va comprendre tout de suite comment ça fonctionne. Et l'idée de Queneau était que si je prends un texte français et que j'essaie de le traduire, on va dire, faute de mieux, voilà, en joycien, ça va m'obliger à comprendre comment Finnegan's Wake a été écrit. Voilà. Mmh. Et donc, c'est écrit par un mélange de langues, une superposition de langues, et surtout par un nombre de jeux de mots.
Je ne sais pas ce que ça va donner à l'oral, d'ailleurs, parce que c'est très compliqué.
Ça va être incompréhensible.
On mettra peut-être la version écrite du texte dans la page web de l'émission, quand on mettra tout ça en ligne en cours de semaine. Je veux juste préciser, effectivement, pourquoi une traduction en joycien. Parce qu'en fait, alors c'est amusant, parce que tu dis que tu as découvert en même temps Joyce et Finnegan's Wake, ce qui est sans doute la pire manière d'entrer dans Joyce. Parce qu'il y a Donc, je le dis, si vous n'avez jamais lu de Joyce, commencez par Dubliners, par Les gens de Dublin, par Le portrait de l'artiste, éventuellement par Ulysse, dont on dit que c'est déjà très difficile à lire, mais c'est quand même en anglais. Alors que Finnegan's Wake est effectivement, et je pense que c'est le postulat de Queneau dans ce texte, c'est que la langue de Finnegan's Wake n'est pas de l'anglais. C'est une langue extrêmement complexe, qui est une combinaison d'une quinzaine d'idiomes différents, bourrée de jeux de mots, etc. À peu près de facto illisible. On a tous essayé de lire Finnegan's Wake et quasiment personne n'y est arrivé. Les seules personnes qui ont lu Finnegan's Wake, à mon avis, c'est ceux qui l'ont traduit, en fait, en entier. Donc, on va écouter un extrait de Anna Olivia Plurabel, qui est un poème.
Auder appelait ça une cantate jazz, tout simplement.
Une cantate jazz, donc écrite par André Auder en 1966. Et on va écouter un extrait, parce que ça fait à peu près une heure, d'une version dirigée, elle, par Patrice Caratini. Et je donne les noms des mezzo, de la mezzo-soprano et de la contralto, Elinoa et Chloé Cailleton. Et après, on entendra, enfin, tu diras peut-être deux, trois mots de ce qu'on viendra d'entendre. Et on écoutera ta lecture, bonne chance, ta lecture du texte de Queneau.
First she left a handful, and down it flushed to her feet, its deep yard winding
Comme ça dure une heure, on ne va pas laisser en entier, mais on est très content d'avoir entendu un extrait de Anna Livia Plurabelle d'André Auder, 1966. Ici, une version de 2021, je crois, enregistrée en direct du studio de la Maison de la Radio et de la Musique. Je lis le descriptif sur Internet. Et donc, on écoutait Linoa, Chloé Caïton, l'Orchestre National de Jazz, sous la direction de Patrick Caratini. Et donc, on entendait des phrases qui sont dans Finnegan's Wake de Joyce. Donc, on va procéder à la lecture à moins que tu veuilles dire deux, trois mots avant.
Juste deux, trois mots, parce qu'on parlait tout à l'heure à propos de la version joycienne de la langue et de Finnegan's Wake. On parlait du fait qu'il y avait un empilement et un enchevêtrement de langues, d'idiomes, etc. Il y a en plus... Pour les passages que j'ai réussi à lire, il y a en plus, et ça va être très très clair dans le texte de Queneau, il y a en plus un ciblage ou un centrage par thème. Par exemple, dans Anna Livia, une bonne partie le chapitre qui s'appelle Anna Livia, une bonne partie du texte fait référence à des noms de rivières ou de fleuves. Et dans le texte de Queneau que je vais vous lire, enfin je vous lirai qu'un extrait, là vous allez assez vite comprendre, il s'agit de poissons. Voilà.
Donc, tu donnes d'abord le texte en français,
oui, je suppose. Oui, bien sûr.
Donc il y a un texte en français, encyclopédique, qui parle de poissons, et ensuite il y a la traduction par Queneau en joycien.
Voilà. Drôle de vie, la vie de poisson. Je n'ai jamais pu comprendre comment on pouvait vivre comme cela. L'existence de la vie, avec un V majuscule, l'existence de la vie sous cette forme m'inquiète bien au-delà de tout autre sujet d'alarme que peut m'imposer le monde avec un M majuscule. Un aquarium représente pour moi toute une série d'énigmes lancinantes, de tenailles rougies au feu. Cet après-midi, je suis allé voir celui dont s'enorgueillit le jardin zoologique de la ville étrangère. Je m'arrête là parce que déjà, vous allez voir, ça va devenir très très compliqué dès qu'on va passer au joycien. traduction en joycien. J'ai perdu, ça c'est mon problème de téléphone.
Dora drôle de vie.
Voilà. Dora drôle de vie, la vie de poisson. Je n'ai jamais pu un tel digérer qu'on ment, qu'on Q apostrophe O N plus loin ment comme le verbe mentir, qu'on ment, on pouvait vivier comme ce la, sol, do, ré. Fichtre, F-I-S-H-T-R-E, oui, O-U-I-T-R-E-S. Fichtre, oui. Son existence sucette morphe, m'astruite et me cote. Métamorphose dans la réincarnation.
Ouais, la réincarnation, il y a quand même des choses pas très très jolies dans tout ça. Mais bon, il n'y a pas que le poisson dans les miens peurs. Oui. Je peux continuer à lire.
Non, c'est un mode de cuisson de la raie. Oui, t'as la raie au beurre blanc et la raie
en carnation. Oui, la réincarnation. C'est la réincarnation aussi, mais...
Œillez-moi ça, l'alarme donc revête le monde. Ô morphos, mort, mort et moer, là pour le coup, je sais pas ce que c'est. Quel hammer, mais là c'est pas le hammer que l'on connaît avec quatre grosses roues. Quel udor, ou mort, ou d'or, D-E-U-R-T. L'emproi du remords, je me l'immandais où j'allais, j'irais. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça devient très très compliqué.
Aquarum, aquarium. C'est ça qu'on avait, aquarum.
Aquarium, aquarium.
Aquarium, c'est vrai, oui, comme si c'était en allemand en fait. Comme s'il fallait
aquarium.
Aquarium, aquarium. Vite, je m'alosais, tour torturé, tourteau, tortue, matelote d'aiguille, mais je n'avais pas d'anchois. Quand même, on ne voulait pas le rater.
Oui, effectivement, je pense qu'on peut s'arrêter sur s'arrêter. Je n'avais pas d'anchois.
C'est
vraiment en plus, pour le coup, là,
une allégorie de la traduction aussi, peut-être.
Un exemple extrêmement clair de ce que je disais tout à l'heure sur comment on fait rentrer des mots d'un domaine linguistique, d'un domaine sémantique plutôt, de force dans un autre domaine.
Tout à fait. Les connotations, évidemment, n'ayant rien à voir. Alors, on entend bien, enfin, on entend mal, peut-être, d'ailleurs, je ne sais pas, mais on entend, on entend quand même que la langue centrale à partir de laquelle se crée cette langue est le français. Là où, effectivement, la langue centrale à partir de laquelle les phonèmes à partir desquels se crée la langue de Finnegan's Wake est quand même l'anglais. Mais c'est quand même du joycien. Voilà. Eh bien, c'était très chouette. Merci à toi pour ces apports, pour nous avoir fait découvrir, enfin, pour ma part, m'avoir fait découvrir, et je suppose aussi à nos auditeurices, non seulement un certain nombre d'anecdotes sur ta pratique de traducteur, d'ouvrages de vulgarisation, principalement avant Internet, et aussi pour nous avoir proposé une programmation musicale aussi en lien aussi avec le thème de l'émission. Et bon, typiquement, bah voilà, Annalivia Plurabelle, Finnegan's Wake, ce sont des... Alors, c'est sans doute plus facile d'aller écouter Annalivia Plurabelle que de se dire je vais lire Finnegan's Wake. Ça ne prend qu'une heure d'écouter Annalivia Plurabelle d'André Auder dans ses différentes versions. Donc, eh bien, merci beaucoup à toi. Et on va se quitter avec un générique de fin customisé. Donc, merci d'avoir écouté la quatrième de I Love Mes Cheveux. Donc merci à Eric pour sa participation. On se quitte avec la Mano Negra. Pour toute réaction, demande, suggestion pour participer à l'émission, le compte Insta est là, ILMC 2025. On se retrouvera dans deux semaines, le 10 mars, avec Priscille Atoy pour parler d'insécurité linguistique. Et en attendant, bonne semaine à l'écoute du 99.5 FM. The